Radio Okapi.
Ce journal démarre avec les réactions au lendemain de la libération de l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État Vital Kamerhe. Un de ses avocats continue à clamer son innocence alors qu'une frange de la population estime que cette relaxation écorche l'état des droits tant clamé. FRDC et la force de la MONUSCO conviennent à travers une nouvelle directive pour des opérations conjointes contre les forces négatives. À suivre dans ce journal les explications de cette directive avec le commandant des forces de la MONUSCO. Nous recevons pour vous en fin de cette édition Georges Kapiamba, coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ. C'est pour parler de la libération de Vital Kamerhe qui, d'après lui, écorche le projet de lutte contre la corruption prôné par le chef de l'État. Fidèles auditeurs, merci de nous faire confiance pour votre information. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. À la présentation de ce journal, Billy Ivan Lutumba. Vital Kamerhe fait confiance à la justice congolaise que si les règles de droit sont appliquées correctement, il est innocent sur toute la ligne. Cette déclaration est de maître Jean-Marie Kabengela, l'un des avocats de Vital Kamerhe, ce mardi à Radio Okapi, au lendemain de sa libération provisoire par la Cour de cassation. Ce dernier n'a pas précisé le montant de la caution. On écoute maître Jean-Marie Kabengela, joint par Alain Irung.
Il fait confiance, comme il l'a toujours fait à la justice congolaise, que si les règles de droit sont appliquées correctement, il est innocent sur toute la ligne, sur tous les chefs d'accusation comportés contre lui. Et nous pensons que sur le plan de droit, à tout le niveau de la procédure pénale, toute personne privée de sa liberté d'aller et de venir peut solliciter sa liberté provisoire. Maintenant, au niveau de cassation, la loi prévoit la possibilité de solliciter d'obtenir la liberté provisoire, ce qui a été fait.
Et vous confirmez qu'il est bel et bien rentré chez lui hier lundi 6 décembre.
Je dis bien la liberté provisoire, on n'indique pas l'individu là où il doit se trouver. C'est libre à lui de savoir là où il doit se trouver, soit entre les mains de son médecin, soit chez lui, soit en un autre lieu. Mais sinon, il est libre de mouvement, d'aller et de venir. Les conditions sont légales, moyennant paiement d'un cautionnement.
De combien?
Et je pense la hauteur a été fixée par le juge et il s'est acquitté de cette obligation de paiement de cautionnement.
Par ailleurs, ayant été suspendu dans cette même affaire, maître Jean-Marie Kabengela indique que le Conseil d'État a levé la dite suspension le vendredi 3 décembre 2021 dernier. La liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe par la Cour de cassation est un nouveau scandale judiciaire qui a un précédent fâcheux. Ces propos sont de Georges Kapiamba, coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à ACAJ. Pour lui, cette libération vient porter un coup dur au projet de la lutte contre la corruption prôné par le chef de l'État. Encore une fois, ajoute-t-il, la politique vient s'y mixer à la justice. Georges Kapiamba est joint par Blaise Shindani.
Pour nous, c'est un scandale judiciaire qui donne un coup d'arrêt à la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment des capitaux. Nous comprenons par là que certains magistrats, certains politiciens sont en train finalement de s'organiser pour totalement vider projet de lutte contre la corruption en utilisant certaines lois de la République, notamment sur l'ordre judiciaire.
C'est quand même la Cour de cassation qui a pris cette décision.
Non, mais il ne faut pas penser que parce que c'est la Cour de cassation, ça veut dire que les juges de cette Cour sont investis de pouvoir de ne pas apprécier les faits en prenant en compte le contexte. Nous sommes dans un contexte où toutes les Congolaises et tous les Congolais ont considéré que la corruption, le détournement des deniers publics, le blanchiment des capitaux constituent des fléaux qui ont ruiné tout projet de développement de ce pays et qu'il ne faudrait plus qu'il y ait des citoyens considérés comme des intouchables.
Sachez que Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAJ, est l'invité de ce journal. La Cour militaire du Nord Kivu a maintenu les condamnations prononcées au premier degré contre des prévenus dans 18 des 22 dossiers qui lui étaient soumis en appel lors des audiences foraines organisées à Butembo depuis le 27 novembre. Les prévenus étaient majoritairement des militaires poursuivis, notamment pour viol, assassinat et vol à main armée. Aucun acquittement n'a été prononcé. Suivez les explications de Florida Kahambu.
Au total, ce sont 22 dossiers qui ont été examinés par les juges d'appel. Deux de ces dossiers ont été jugés irrécevables pour non-respect de la procédure. Deux autres ont débouché sur une diminution de la peine. Des personnes condamnées à la peine de mort au premier degré ont vu leur peine réduite en perpétuité pour certains et à 20 ans de prison pour d'autres. Dans les 18 autres dossiers, les peines prononcées par les juges du premier degré ont été confirmées par la cour militaire. Les coupables étaient en majorité des militaires condamnés pour viol. Certains civils poursuivis dans les mêmes dossiers ont été condamnés pour vol à main armée. Ces audiences ouvertes le samedi 27 novembre dernier ont été organisées sur appui de la section d'appui à la justice de la MONUSCO. Les ministères publics, représentés à l'audience par le major Rifin Asungé, substitut de l'auditeur militaire supérieur du Nord Kivu, s'est dit satisfait de ces condamnations qui ont reconduit les peines prononcées au premier degré. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Partie Est et sécurisation, les forces armées de la RDC et la MONUSCO ont signé ce mardi 7 décembre le document axé sur la directive concernant la conduite des opérations conjointes de traque contre les forces négatives dans la partie Est de la RDC. D'après le chef d'état-major général des FRDC, Célestin Balamou-Sensé, il s'agit d'un cadre favorable qui permet de partager les valeurs et cultiver un climat de confiance mutuelle. L'espoir du peuple congolais, souligne le chef MG, est de voir à travers cette directive l'application stricte de la force telle que prévue par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Assurance du commandant des forces de la MONUSCO avec qui le chef d'état-major général et FRDC ont échangé après signature la directive. Lieutenant général Marcos Deza Afonso da Costa au micro de Radio Capi.
Le commandant de la force, il y a déjà le feu vert de New York pour utiliser la force. Dans l'esprit du mandat des Nations Unies, bien sûr, et dans les standards des Nations Unies, en respectant les droits de l'homme. J'assume mon commandement, une troupe qui est constituée de 14 pays. Quand on va les observatoires militaires et l'état-major, on monte à 50. C'est-à-dire, tous ces pays ont donné l'autorisation à la Nations Unies à travers le commandant de la force de l'utiliser pour l'esprit des mandats, c'est-à-dire la protection des civils congolais, le soutien de l'armée congolaise, le maintien de l'intégrité territoriale du Congo. Ces mécanismes que nous avons signés aujourd'hui et avec la mise en place du CCO, on va travailler ensemble avec beaucoup de synergie, mutualisation, rationalisation d'efforts et être plus efficace. Nous n'avons pas un mandat pour soutenir des opérations FADC ou PDF, mais comme on va travailler dans le même théâtre d'opération, bien sûr qu'il doit avoir des coordinations pour éviter de dégâts collatéraux. Nous ne serons pas directement participants des opérations FADC ou PDF. C'est-à-dire, s'il y a de ce côté la MONUSCO qui peut appuyer, il y a de l'autre côté le PDF pour appuyer aussi, on peut faire une synergie et synchronisation, même pour rationaliser les efforts de chacun. Utilisation des hélicoptères, de notre côté, d'intelligence et tout cela.
Des déplacés d'au moins 7 sites en territoire du Djougou sont asphyxiés depuis environ un mois par la présence des miliciens Codeco. Ces derniers ont multiplié les attaques sur plusieurs camps des déplacés. En l'espace des deux semaines, les casques bleus de la MONUSCO et les FRDC ont déjoué 3 incursions de ces hommes armés. Conséquence, ces personnes vulnérables ne peuvent plus se rendre au champ pour jouir des fruits de leur labeur. La coordination de la société civile des Djougou alerte les autorités militaires pour sécuriser ces déplacés. Martial Kiza.
Le sud du placé de Rodro de Djaïba, Boulé, Tché, Jina et Blopa dans les territoires de Djougou sont sous la menace permanente de miliciens Codeco. Ces derniers ne cessent d'envoyer des messages clairs pour annoncer les attaques imminentes des différents sites. Plus inquiétant, des hommes en armes sont visibles depuis un certain temps, rôdant autour des sites. Les secrétaires du site de Rho indiquent que ces miliciens ont tenté à 3 reprises d'attaquer leur site qui héberge à ce jour plus de 50 000 personnes. Par pair, ces vulnérables sont obligés de s'éterrer dans les sites. Désiré Baymouka.
Ils ont attaqué à 304 mètres du site grâce à l'intervention de la MONUSCO. Ils ont repoussé cette attaque.
La société civile de Djougou interpelle les autorités militaires à prendre au sérieux ces menaces qui mettent la vie de ces personnes vulnérables en danger. Gilles Tsouba.
Que ces autorités militaires puissent prendre toutes leurs responsabilités. La cause, l'objectif pour lequel on les a envoyés ici, parce que les civils
n'ont pas su résoudre les problèmes sécuritaires.
De son côté, l'armée rassire exhorte le déplacé à plus de vigilance et d'alerter les forces de sécurité sur tout mouvement suspect afin qu'elles interviennent rapidement et efficacement. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent dans la province du Bazouélé. 6 infirmiers sont portés disparus et 2 autres ont survécu après le naufrage d'une pirogue dans la rivière Ouéré. Le drame est survenu dimanche dernier lorsqu'ils ont quitté la localité Banda dans le territoire d'Ango pour Bouta afin de toucher leur prime de risque à la Réobank. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Bazouélé recommande la résiliation du contrat qui lie le gouvernement à la Réobank afin d'épargner le personnel soignant de l'intérieur de ce genre de drame à l'avenir. Le point avec Jacques Moukonkole.
Au premier tour de la traversée de la rivière Ouéré, le piroguier avait pris des motos et quelques personnes, dont 5 infirmiers. Au second tour, il a embarqué 8 autres infirmiers. Selon des sources sur place, la pirogue à mauvais état a chaviré au milieu de la rivière. Bilan, 6 infirmiers portés disparus et 2 rescapés. Suite à ce drame, le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Antoine Gambolipay, recommande la résiliation du contrat qui lie le gouvernement à la Réobank.
Si la localité Banda est endeuillée, c'est parce que tous les infirmiers ont quitté Banda pour se rendre à Bouta. Si c'était les comptables qui étaient chargés, n'est-ce pas, de payer les infirmiers, on n'aurait pas assisté à ce qui nous est arrivé aujourd'hui.
À l'exécutif provincial, l'élu du Bazouélé recommande l'autorisation d'exploitation de la rivière aux seuls armateurs remplissant les conditions requises.
Matin n'avait même pas aussi les gilets de sauvetage. Prochainement, si le gouvernement provincial pouvait donner justement les marchés à ceux qui pouvons respecter les conditions telles qu'énumérées dans les arrêtés respectifs.
La gouverneure du Bazouélé, Ruth Badouli, a promis de se prononcer sur ce drame dans les heures qui suivent. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Nous devons être capables de produire sur le continent africain des médicaments dont nos populations ont tant besoin. Il nous faudra entre autres miser sur l'Agence africaine des médicaments AMA. Ces propos sont du ministre du Commerce extérieur hier lundi à Kigali au Rwanda à la conférence sur les partenariats pour la fabrication des vaccins en Afrique. Jean-Lucien Boussa, qui a représenté le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, a souligné que la RDC est prête à partager son expérience en matière de production des vaccins et médicaments. Il a par ailleurs appelé tous les États africains à passer de l'aspiration à l'action. On écoute Jean-Lucien Boussa dans cet extrait proposé par Alain Irung.
En ce qui concerne la production des vaccins et des médicaments, l'Afrique devrait aller loin et vite. Aller loin et vite demande de développer rapidement des compétences, des capacités technologiques ainsi que la mobilisation des ressources. Nous devons donc investir massivement dans la recherche. Dans l'entretemps, il est urgent que nos pays utilisent pleinement les mesures juridiques et politiques, y compris les flexibilités consacrées par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Nous pouvons relever les défis que nous lance la pandémie de COVID-19. On sait qu'elle constitue une occasion de repenser nos systèmes de santé afin de les rendre plus résilients. Oui, nous le pouvons. En effet, plus récemment, les travaux des chercheurs congolais ont permis de trouver les traitements contre la maladie à virus Ebola. Bien plus, la mise sur le marché de 2 médicaments anti-Covid, à savoir le Manacovid et le Dubac-C, a démontré la capacité de l'Afrique à contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre cette crise sanitaire. Il est donc impératif que cet élan se poursuive et que nos forces soient mutualisées en vue de résorber la crise née de la pandémie de Covid-19 et nous projeter vers le développement durable.
Parlons à présent de cette cacophonie au sud Kivu. Une confusion persiste à la tête de la province jusqu'à ce jour. Le vice-gouverneur de province et son ministre provincial de l'Intérieur se disputent l'intérim de l'exécutif en l'absence du gouverneur qui est en consultation ici à Kinshasa. Ces deux membres du gouvernement provincial se sont échangés des correspondances contradictoires sur la gestion de la province en cette période. La population ne sait à qui s'adresser sur d'éventuelles questions vitales du sud Kivu. Emmanuel Elamejinindu Wakabedi.
Le vendredi 3 décembre dernier, avant d'embarquer pour Kinshasa, Théo Ngwabidje Kassi, gouverneur déchu à la veille par l'Assemblée provinciale, laisse son intérim au ministre provincial de l'Intérieur. Il indique que son vice-gouverneur est aussi attendu en consultation par Kinshasa. Le lundi 6 décembre 2021, le vice-gouverneur, encore présent à Bukavu, arrive à son cabinet de travail, reçoit les honneurs et s'installe. il adresse une lettre au ministre provincial de l'Intérieur, disant que c'est lui qui dirige la province. En réponse, le ministre provincial de l'Intérieur s'adresse au vice-gouverneur et estime que ce dernier doit se trouver en ce moment à Kinshasa et non à Bukavu. Théophile Kilwe signe et persiste, je cite, « C'est moi qui détiens le symbole officiel du pouvoir en ce moment ». Jusque ce mardi matin, chacun dirige la province à partir de son cabinet de travail. Dans cet imbroglio, qui d'entre les deux détient le cachet officiel du cabinet de gouverneur? Question difficile pour l'instant. Emmanuel Elamijoua Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Actualité internationale.
La prison centrale de Gitega, la capitale burundaise, ravagée mardi matin par un incendie. Le bilan provisoire communiqué par le vice-président du pays fait état des 38 morts et 69 blessés. Alors que cet univers carcéral abritait fin novembre 1539 détenus pour 400 places selon les chiffres de l'administration pénitentiaire burundaise, des secteurs entiers de la prison ont été calcinés par les flammes. L'incendie aurait été provoqué par un court-circuit selon les autorités burundaises. Le 21 août, un incendie déjà causé officiellement par un court-circuit avait touché un secteur de la prison centrale sans faire des victimes. La prison centrale de Gitega est vieille de 95 ans. Un policier kényan a tué par balle 6 personnes dont son épouse et en a blessé 2 avant de retourner son arme contre lui. Armé d'un fusil d'assaut AK-47, le policier a d'abord tué son épouse d'une balle dans le cou, puis a ouvert le feu sur ses voisins de manière indiscriminée dans un quartier populaire de Nairobi. L'incident a déclenché la colère du voisinage qui a manifesté en bloquant des rues avec des pneus en flammes. Les raisons de ce coup de folie du policier restées indéterminées seront le chef de la police.
L'invité.
Comme annoncé, notre invité, c'est Georges Kapiamba, coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ. Il revient sur la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe par la Cour de cassation. Pour lui, cette libération vient porter un coup dur au projet de lutte contre la corruption prôné par le chef de l'État. Georges Kapiamba s'entretient avec Blaise Chindani.
Monsieur Georges Kapiamba, bonjour.
Bonjour.
La Cour de cassation vient d'accorder la liberté provisoire à Monsieur Vital Kamerhe, président de l'UNC. Quelle est votre réaction par rapport à cette décision?
Bon, notre réaction est de déception totale parce qu'il s'agit d'un énième scandale judiciaire qui vaut un précédent fâcheux à la République démocratique du Congo du fait que tout le monde est engagé et mobilisé depuis plus de 2 ans pour lutter contre la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment des capitaux. Donc lorsqu'on utilise certaines lois de la République pour faire échapper certains plus hauts responsables de leurs obligations de subir la rigueur de la loi jusqu'à même à rendre les avoirs pris au trésor public, ça donne un coup d'arrêt carrément à cette lutte contre la corruption.
Monsieur le coordonnateur, c'est quand même la haute cour qui a pris cette décision, la Cour de cassation.
À notre avis, le juge de la Cour de cassation ayant été saisi comme juge de va tout simplement apprécier et contrôler la conformité de la procédure menée au niveau inférieur dans les procès impliquant M. Vital Kamerhe. Nous pensons que ces juges sont mieux placés pour savoir qu'ils ne pouvaient pas, du coup, à la première audience, statuer seulement sur la liberté provisoire. Et là, ça donne l'impression qu'il y a eu au moins une main politique derrière qui les a fait agir de la sorte ou d'autres motivations non connues de nous tous jusqu'à ce jour. Nous sommes dans un contexte où toutes les Congolaises et tous les Congolais ont considéré que la corruption, le détournement des biens publics, le blanchiment des capitaux constituent des fléaux qui ont ruiné tout projet de développement de ce pays et qu'il ne faudrait plus qu'il y ait des citoyens considérés comme des intouchables, que lorsque quelqu'un est identifié comme auteur ou complice de ces actes, il doit être puni de manière exemplaire jusqu'à ce que les avoirs volés au trésor public puissent être recouvrés.
Georges Kapiamba, il y a certaines sources qui disent que la condamnation de M. Vital Kamerhe souffre de manque de preuves. Qu'en pensez-vous?
Alors, nous pensons que nous ne pouvons pas aller dans cette direction parce que il a été condamné au premier degré par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe à 20 ans de prison et cette condamnation condamnation a été confirmée, bien que réduite en termes de peine, parce que le juge d'appel a ramené cette peine de 20 ans à 13 ans. Et donc, étant légaliste républicain, nous devons savoir nous incliner devant cette condamnation.
Donc, vous pensez vraiment que c'est une décision politique?
Nous sommes plus que convaincus qu'il y a eu une main politique qui a facilité ou accéléré cette liberté provisoire, et nous ne pouvons pas ne pas les confirmer, parce que les choses telles qu'elles se sont déroulées démontrent clairement que les juges n'ont pas statué en fonction des prescrits de la loi, mais en fonction des injonctions politiques. Et nous dénonçons cette main politique qui commence aujourd'hui à fragiliser la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo, en faisant libérer régulièrement et de manière intempestive les personnes qui sont condamnées pour des faits de corruption, de détournement de deniers publics ou de blanchiment de capitaux. Vous savez que là, il s'agit d'un cas qui s'ajoute à tant d'autres que je ne veux pas citer ici, mais qui reviendront dans les rapports de la CAJ qui sera publié à la fin de l'année en cours.
Mais la liberté provisoire ne veut pas dire que M. Vital Kamerhe est complètement libre de tout mouvement.
Nous sommes d'accord, mais il faut alors, si tel est le cas, il faut la généraliser à tous ceux qui sont arrêtés, qui sont dans les mêmes conditions. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans beaucoup de nos prisons à travers la République, sur plus de 20 000 personnes en détention, 80% ce sont principalement des détenus préventifs, notamment des gens qui sont arrêtés pour des vols simples, ou bien pour des petits coups et blessures. Mais pourquoi on n'accorde pas cette liberté provisoire à ces gens-là, alors qu'ils sont Congolais? Et l'article 12 de la Constitution dit que tous les Congolais sont égaux en droit et en obligation et ont droit à une égale protection. On les fasse alors pour tout le monde, au lieu de commencer à les faire bénéficier seulement à certaines personnes à cause de leur position politique dans la société.
Monsieur Georges Kapiamba, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Fidèles auditeurs de Radio Okapi, sachez que votre rédaction attend l'autre son de cloche de Billy Kambale, qui est secrétaire général de l'UNC, parti de Vital Kamerhe, qui a pris l'engagement de se prononcer par rapport à cette question plus tard. Et voilà qui met fin à cette édition de journal sur Radio Okapi. Merci pour votre sympathique attention.